cap et.
Et donc, j'aime autant qu'il y ait une validation. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous dans ce, je ne sais pas combien tième jeudi des boiseries. C'est chaque deuxième jeudi du mois, ici même dans la salle des boiseries, qu'on reçoit des personnalités de, disons, artistiques. Tiens, on a même un petit écho musical, une répétition dans le coin. Pour info, tout de suite, pour mémoire, si vous voulez noter dans votre agenda neuronal que le prochain rendez-vous des Jeudis des Boiseries, ce sera le 9 novembre, et ce sera avec le dessinateur de bande dessinée Cédric Fernandez, qui publie chez Glénat notamment, et puis chez bien d'autres éditeurs de bande dessinée. Je crois qu'il va venir avec, sinon avec des planches, mais en tout cas avec des panneaux qui décrivent un petit peu aussi le travail. Et puis je pense qu'il viendra avec quelques originaux, donc venez, ça devrait être intéressant. Et puis le type est adorable, donc n'hésitez pas. Donc ce sera le 9 novembre, ici même, à la même heure. En attendant, on a le plaisir de recevoir d'ailleurs un auteur qui pourrait parler de bande dessinée aussi, voilà, Dominique et Delahaye, parce qu'il est scénariste de bande dessinée aussi, donc il pourrait en parler savamment. Dominique, il est écrivain, romancier, scénariste de bande dessinée, musicien, beaucoup quand même, interprète, chanteur, ouais, ça lui arrive, parolier. Voilà. Et il va rien dire pendant tout le. C'est comme ça pendant toute la présentation. Et donc je vais ramer pendant une heure. Graphiste aussi.
Graphiste.
Bah, il fait des affiches, des pochettes.
Je fais une pochette ou deux.
Mais... Bon, il a fait une pochette ou deux. D'accord. Enfin, c'est bien. J'allais dire militant. Je ne sais pas si ça définit la personne, mais je pense que c'est quand même une étiquette un peu incontournable de tout ce que vous faites, le militantisme. Et vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, disons une quinzaine de romans. Et puis si on ajoute la bande dessinée, vous êtes scénariste de BD comme je l'ai dit, on atteint les 20 ouvrages. Donc je n'ai pas tout lu. Malheureusement, on va parler de ce que j'ai lu, mais aussi des autres choses. Mais là, j'en parlerai moins savamment, si tant est j'en parle savamment de cela. Pour vous présenter, je me suis dit que, en fait, il n'y avait rien de tel qu'un ami qui vous connaît de plus longue date, c'est Jean-Bernard Pouy, à qui vous avez demandé une préface de ce livre, Pile et Face. Et donc, je vais me permettre de lire cette préface. D'accord ? Jean-Bernard Pouy, auteur de romans policiers notamment, enfin surtout de romans policiers, 130 romans à son actif. On parlera peut-être de Simon à un moment qui avait aussi.
Inventeur du Poulpe.
Et inventeur, et c'est l'inventeur du Poulpe, de la série Le Poulpe, dont Dominique a été un des auteurs. Hein. Vous avez écrit un volume du Poulpe qui s'appelle « L'année des fers chauds ». Oui, c'est ça, des fers chauds. Voilà, puisqu'il y a des jeux de mots à chaque... Un de mes jeux de mots préférés dans les titres du Poulpe, c'est l'écuyère à cafeter.
C'est Jean-Bernard. La petite écuyère
à cafeter. Et voilà, et je pense que quand on a...
Voilà. Mais 20 000 vieux sur les nerfs, c'est pas mal.
20 000 vieux sur les nerfs, c'est pas mal. Mais je préfère la petite écuyère à cafeter. Bien, alors, ce Jean-Bernard, donc, ça, c'est bien le genre de Dominique Delahaye, ne l'appelez pas Dédé, mais Dom, de me contacter en me disant, allez, tu serais gentil si tu me faisais une préface dans l'heure qui suit, parce que ça urge. Va dire non à un homme pressé, tiens, bon courage. Il a trop de trucs à faire, du coup, il n'a pas le temps de se l'écrire lui-même, la préface. Prof, j'ai vérifié l'attachement de ses ouailles, musicien, avec cette dégaine effilochée de membre des Cramps, chef d'orchestre, un combo local qui en jette, même au Havre, où la concurrence est rude, écrivain, la preuve ci-après, animateur culturel, le festival Polar, mari, père, cuisinier, Je témoigne. Oui, ça c'est d'ailleurs un problème quand on reçoit de l'île de l'Est. C'est qu'on a affaire à un vrai cuisinier et donc on est très intimidé. Super bricoleur. Alors là, j'ai aucun. Ça ne me fait rien du tout d'être venu. Ça ne me pose absolument aucun problème. Non, je t'ai plus, c'est comme pour Léonard Vinci. Et surtout, depuis peu, marin d'eau douce, donc on va parler aussi du navigateur, avec la péniche et tout le toutime. Ça, à part pour ses proches, ce n'était pas prévu. Avant, il habitait dans une jolie baraque sur les hauteurs havraises, puisque Dominique de la Haye est du Havre, et pouvait ainsi voir le monde de haut, ce qui était à son image, lui qui déjà est grand, très grand, long comme un jour à rien foutre. Mais ça n'a pas suffi. Habiter une maison, c'est être planté, enraciné. Maintenant, il vit sur l'eau, les ondes y sont meilleures et comme ça, il peut surtout partir au quart de tour, quand ça lui prend. C'est tout lui, ça. Aller très lentement le long de canaux immémoriaux, alors que c'est la vitesse qui le caractérise. Disons à présent qu'à présent, il est l'homme qui va le plus vite à 9 à l'heure. Je l'ai connu peu à peu, c'est pas son genre de se mettre en avant, c'est pas le gus à vous prendre la tête, comme organisateur avec Anne, c'est douce, du festival Polar du Havre, qui a la particularité de se tenir à même la plage, au soleil, en plein dans les galets, avec pas loin des porte-conteneurs chinois qui vous rasent les moustaches. Et qui propose chaque année un concert, rock en général, avec des groupes locaux même, tentant de mettre en musique les pauvres paroles des auteurs invités, acheter des CD, c'est un ordre. Une telle qualité dans le boulot et dans l'accueil, arrosage assuré, ne peut que forcer la reconnaissance repue. Et ensuite, l'amitié. Le tout peu à peu, cédant le pas à une sourde admiration, celle des écrits du bonhomme, ce qui est quand même très chiant. Maintenant, quand on le voit, quand on le rencontre, on ne sait plus si c'est notre hôte ou notre pareil, voire notre concurrent, pas besoin d'être parano. Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que je joue moins bien du saxophone que lui, facile, on joue pas, et que je rate des nouilles. Alors qu'il te fait des pétoncles au gingembre, je raconte même pas. Et maintenant, je ne suis plus du tout sûr d'écrire aussi bien. Vérifier, c'est juste après. Tant mieux, car ça va être à moi de bientôt lui demander une préface, gnarc, gnarc, à pondre pour demain, bien fait pour ta gueule, Dom. Voilà, donc une préface tout à fait, qui nous met tout à fait dans l'ambiance. Bon, ça date d'une dizaine d'années. Donc, il s'est passé quelques petites choses depuis, notamment, vous êtes venu dans nos parages. Merci. Et vous pouvez compléter là l'espace qui entre 2013 et 2023. C'est 10 ans qui nous séparent de cette préface.
Du point de vue de notre vie, c'était 10 ans de la péniche. Donc, on a navigué. En France et en Europe, avec notre bateau pendant ces 10 ans. Du point de vue des bouquins, celui-là était un point de bascule, puisque c'est grâce à ce bouquin que Marc Villard, qui était directeur de collection chez Inuit, m'a commandé un texte qui m'a fait rentrer chez Inuit et qui m'a ouvert d'autres portes ensuite. Donc c'est un bouquin qui est important pour moi. Ça a été un peu un déclencheur, quoi. Ouais. Voilà. Et puis c'est aussi l'irruption dans mes livres du monde du bateau.
Oui, qui est alors là récurrent pratiquement, presque dans tous. Il me semble qu'il y a une péniche à quai pratiquement dans tous. Dans ceux que j'ai lus en tout cas.
Ouais, voilà. Dans ceux qui se sont déroulés après. Ouais. Ouais. En fait, c'est le monde du fleuve est quand même un décor magnifique pour toutes les histoires, mais pour les histoires un petit peu tendues, tout particulièrement la communauté des gens du fleuve est un monde un peu à part, avec comme toutes les communautés un aspect très très chaleureux, c'est-à-dire qu'il y a entre les mariniers, enfin il y avait, parce que le monde a un peu changé, mais disons il y avait quand même une forte entraide, des mariages entre des familles qui se connaissaient, enfin c'est un petit milieu, je dirais, assez chaleureux, mais avec tout ce que comporte aussi une communauté d'exclusion du reste. C'est-à-dire que quand on se regroupe
Oui, il y a un effet de tribu ou de clan.
Oui, voilà, il y a un côté tribal et chaleureux, mais ce côté-là génère aussi une forme d'exclusion de la part de l'extérieur, mais d'incompréhension aussi des gens de la terre, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. Et voilà, donc il y a ce côté-là. Donc ce sont des gens très attachants quand on arrive à percer un peu leur carapace, mais avec toujours ce sentiment qu'ils ont. Bon, ils ont été beaucoup méprisés aussi à une époque, beaucoup. Je faisais partie des gens du voyage.
Oui.
C'est-à-dire que leurs enfants, par exemple, étaient dans les écoles, les mêmes écoles que les enfants de forains, etc. Donc ils étaient considérés comme des gens du voyage, quoi. Ce qui n'a rien, évidemment, de déshonorant, mais qui, dans l'imaginaire populaire. Donc ils ont toujours un peu ce côté-là. Si on est un peu plus trivial, on les appelait aussi les chis dans l'eau. Puisque c'était le cas, et que si dans un port où il y a 10 bateaux, ça pose pas problème, là où nous avons amarré notre premier lieu d'habitation, on va dire, avec notre péniche, qui était une petite rivière à côté du Havre qui s'appelle la Lézarde, il y a eu des époques où il y avait 80 bateaux dans ce petit espace. Donc là, par contre, ça peut vite devenir une forme de nuisance pour les gens qui sont autour. Quoi. Voilà. Donc. Mais bon, c'est aussi un milieu de solitude aussi un peu. C'est-à-dire que l'homme de bar est seul sur des longues périodes avec un rythme qui amène un peu à la. Pas à la rêverie, mais à une certaine forme de retour sur soi un peu. Donc on est. C'est un mélange de tout ça, quoi. Donc il y a quand même pas mal d'ingrédients qui peuvent nous
intéresser. Oui, qui sont très inspirants, oui. Ouais. Et justement, donc avant que vous rencontriez ce milieu, vous aviez déjà écrit. C'était déjà du polar avant aussi.
Alors oui, c'est le premier. Je suis arrivé à l'écriture un peu. Par effraction, on va dire, puisque c'est un ami qui m'a confié Il y avait eu un premier tome de BD qui s'appelait Les Premières Tempêtes, qui avait été sorti au Havre pour faire un premier petit tour de l'histoire havraise, et qui avait été sorti avec les fonds du centenaire de la Révolution de 89, donc en 1989, et le bicentenaire. Et puis, ils avaient voulu faire un deuxième tome, on va dire. Ils avaient confié le scénario à un journaliste après, et le copain m'avait proposé de, comme il savait que je m'intéressais à l'histoire du Havre, m'avait proposé de le regarder, et moi il y avait quelques, on va dire, bizarreries historiques qui m'avaient sauté aux yeux assez vite. Ces bizarreries ont été confirmées par un historien du Havre qui s'appelait Jean Lebois, qui était une espèce de référence assez indiscutable, et donc ils ont demandé au journaliste de retravailler son scénario, ce qu'il n'a pas voulu faire globalement, pour aller vite.
D'accord.
Et donc on lui a payé ce qu'on lui devait, et le copain m'a demandé de réécrire un truc. Voilà. Donc j'ai réécrit ce scénario, la BD est sortie avec un peu de chance, et vous connaissez ça dans la relation au dessinateur, on a parfois des petites discussions qui peuvent être parfois tendues, parce qu'on ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. Et donc, pour le deuxième tome de cette BD, je lui ai proposé, parce qu'en fait, quand on m'avait donné le scénario, ça se présentait avec des pages découpées en vignettes, comme une BD, et dans chaque vignette, on disait ce qui se passait, puis on mettait les dialogues dans les bulles. Voilà. Parfois, j'avais même ajouté quelques croquis pour préciser ma pensée, et c'est ça qui avait ennuyé le dessinateur, en fait. Il trouvait que j'étais trop intrusif dans. Voilà. Alors, la deuxième fois. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, moi je vais l'écrire sous une forme romancée. C'est-à-dire que tu auras une page qui correspondra à une planche, je décris ce qui se passe et je mets les dialogues comme on met les dialogues dans un livre. Puis avec ça, tu fais ta vie. Et en fait, ce qui était très étonnant, c'est qu'au bout du compte, c'était beaucoup plus fidèle à ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire qu'il y a eu un voyage d'image mentale qui se faisait. Voilà. Mais moi, en écrivant ça, à un moment donné, je me disais, bon, ça, je ne vais pas l'écrire parce qu'il va le dessiner, donc ça ne sert à rien, etc. Donc, puis, plus ça avançait, plus je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment être tranquille, j'ai qu'à écrire un bouquin où personne d'autre que moi.
D'accord.
Voilà. Ah oui, et l'idée d'écrire un roman est venue comme ça.
D'accord. Alors, et ensuite, ça a été. Et donc, c'était quoi ce.
Le premier roman, ça s'appelait L'été de plomb, et c'était un polar. Et j'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi, mais ça s'est un peu imposé à moi parce que. En fait, j'avais été nourri dans la lecture jusqu'à mon âge adulte par d'un côté tous les romans d'aventure, les Trois Mousquetaires, Jules Verne, Jack London, etc. Et puis la deuxième source de mes lectures, c'était le roman social du 19e au 18e, voilà, Zola, Sue, etc. Bon, donc la conjonction de ces deux choses vous donne envie d'écrire des romans où il se passe des choses, c'est-à-dire où le moteur du livre, c'est l'intrigue, et puis où on situe ces intrigues dans un environnement social.
Oui, parce que quand même, ce qui distingue le polar d'un autre genre, c'est son aspect social, politique. Le polar,
alors,
c'est...
Politique, c'est, je ne sais pas si on peut dire
c'est
ça.
Quand même en tout cas,
bah, on parlait de Simenon, on ne peut pas dire que Simenon est un auteur directement politique.
Non,
mais par contre, c'est un observateur extrêmement minutieux de son époque. Et bien sûr que la qualité de cette observation et la qualité des personnages qu'il construit donne un éclairage sur une période et forcément prend un aspect de critique sociale parfois.
Oui, parce qu'il y a quand même les classes sociales et la façon dont il les
décrit, voilà,
il y a un regard dessus.
Simenon, en plus... il n'a pas été
exemptoire. Alors, d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresserait, donc vous allez donner une conférence le 16 novembre
Je crois que c'est le 16, oui.
Oui, si, si. Je confirme, c'est le 16. Ça se passera à la médiathèque de Charlieu,
non? Non, au cinéma.
Au cinéma Léal.
Ça s'appelle De la page à l'écran.
Oui.
Et donc, c'est autour de l'œuvre de Simenon, qui a été un des auteurs les plus adaptés au cinéma. Et on passera une chambre en ville.
Ah oui,
le dernier film d'Amalric.
Non. Ah non, c'est Demi, pardon.
Non, c'est pas une chambre vide, alors non. Ça s'appelle La Chambre Bleue.
La Chambre Bleue, et donc c'est Amalric.
Et c'est le film d'Amalric.
C'est Amalric, c'est ça. D'accord. Bien, donc tout de suite le polar. Moi, enfin, il me semblait que c'était... peut-être vous disiez, vous n'avez pas vraiment eu le choix, mais en réalité... c'est le genre, la science-fiction a eu ce rôle à une époque aussi, mais essentiellement le genre qui a un regard sur la société. Et la société, j'allais dire, actuelle. Vos romans, ils se passent aujourd'hui, toujours.
Mais bien, oui.
Hein? Oui.
Enfin, oui. Et en fait, on va dire que le polar, c'est quand même c'est une grosse catégorie, on va dire. Et plus le polar a évolué, hein, on est loin de ce qu'on appelait les paperbacks, puisque ça naît après la crise de 1929 aux États-Unis. Les éditeurs décident, pour des raisons financières, pour toucher un grand public, de sortir des petits livres. Hein, faut voir que jusqu'au début du 20e, ou même, fin 19e, le livre, ça reste un objet énorme. C'est une couverture souvent cuir, c'est lourd, c'est cher. On ne trimballe pas ça dans le métro ou dans le bus quand on va au travail. Et là, pour répondre à cette question, on sort ce qu'on appelle des paperbacks, c'est-à-dire des couvertures souples, l'équivalent de notre livre de poche, pour aller vite, et on va écrire pour ces collections-là. Donc trois genres, le western, la science-fiction et le polar. Très vite, le western va trouver ses limites, la science-fiction tiendra un petit peu le coup, mais c'est le polar qui va emporter l'affaire. Donc il s'en vend énormément, c'est l'âge d'or d'une forme d'écriture... formidable avec les Dashiell Hammett, avec Jim Thompson, avec tous ces grands auteurs américains. Et voilà, et donc ça va débouler en France en fait, sur un terreau qui existe déjà, donc à la croisée de ce roman d'aventure
et du roman social.
Oui, hein. Oui. Et il va y avoir toute une série de premiers romans en France qui vont démarrer. Mais à partir de là, le genre va se diversifier énormément. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois le roman à énigme, donc on va dire Agatha Christie pour aller vite, on va avoir du roman purement social, comme Simenon par exemple, on va avoir du thriller, avec tous les Américains, mais aussi maintenant en France, des gens comme Granger, comme Bernard Minier, voilà, qui écrivent vraiment autour, souvent autour d'un psychopathe. Voilà. Après, on a le polar classique, hein, c'est Nestor Burma avec une enquête, un flic, etc. Et puis, voilà, donc le roman historique aussi, le polar historique avec les histoires du moine en Chine, etc. Donc en fait, le polar, c'est très ouvert, très diversifié, avec des plumes différentes, avec des sujets d'inspiration différents, etc. Mais sa grande caractéristique reste de cette immersion du personnage, la définition du personnage par ce qu'il fait et l'endroit dans lequel il vit.
D'accord.
Et pour moi, le meilleur roman noir que j'ai jamais lu, c'est L'étranger de Camus. Parce qu'il y a tous les ingrédients là-dedans, il y a un pays en irruption, il y a un crime, il y a le trajet de ce personnage écrasé par ses événements et par son incapacité d'aimer, ou en tout cas de dire son amour, ou de, voilà, parce qu'il est quand même condamné plus parce qu'il n'a pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère que pour le crime, de ce qu'il appelle l'arabe, puisque quelques années après, Kamel Daoud va lui reprocher de ne pas avoir donné de nom à cette victime.
Ouais.
Voilà.
Il y a
je t'en prie.
Je vous en prie. C'est un petit exercice que j'aime bien, ça. Juste, non,
de 2 euros à chaque fois.
Juste une parenthèse, alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un auteur de polar, justement, Patrick Armand, je ne sais pas si vous le connaissez, il est publié au Caïman, ça c'est une maison d'édition stéphanoise, et il me disait le thriller est de droite et le polar est de gauche. Ça résonne, ça?
Oui, alors là-dedans, il y a une partie d'aigreur et d'envie.
Parce que le thriller, c'est vraiment mieux.
Le thriller, c'est vraiment très très bien. Et moi, je n'irai pas jusque-là. Moi, je dis que on n'a pas toujours les mêmes préoccupations, mais on n'écrit pas tout à fait pour les mêmes raisons, je pense. Ah, ouais. En tout cas, voilà. Mais moi, j'ai une fascination quand même pour cette mécanique. Alors, ils ne sont pas tous réussis, hein, les thrillers, mais les polars sociaux non plus. Mais j'ai lu Glacé, par exemple, de Bernard Minier. Bah, on passe 4 heures en immersion, quoi. Il a un talent pour construire une mécanique qui vous perd sur des fausses pistes, qui vous rattrape, qui vous ramène. On est vraiment dans un jeu intellectuel. Et puis, on dévoile quand même une part sombre de nous. Alors là, ce qu'on pourrait dire, c'est que d'un certain point de vue, le thriller exonère la société, puisque le criminel dans les thrillers, pour la plupart du temps, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui est malade. Donc c'est assez facile et assez rassurant, une fois qu'on a refermé le livre, on a éliminé la tumeur, et on a récupéré un corps sain, finalement. On remet le monde à l'endroit. Ce qui est d'ailleurs une des préoccupations du polar depuis son origine, hein, parce que les premiers... il était toujours question de remettre le monde sur ses pieds. Il y a les premières enquêtes datent de la Bible, quand même, où les moines... tu parlais de farine tout à l'heure, vous parliez de farine, les moines s'aperçoivent qu'ils sont volés, il y a des gens qui viennent voler dans leur réserve, et alors ils ont l'idée de, comme il fait nuit, au moment où il y a des vols évidemment, ils renversent de la farine par terre, et le lendemain ils arrivent à confondre le voleur à cause des traces de pieds qui se sont déposées et que le voleur n'a pas imaginé avoir laissé. Voilà. Mais l'objectif est de réparer la faute, voilà. On va dire que peut-être le polar moderne, depuis les auteurs américains, nous laisse de ce point de vue sur notre fin. C'est-à-dire que, brusquement, il n'y a pas un bon flic et un mauvais, voleur, mais ce conflit entre le bien et le mal passe entre chacun d'entre nous. L'exemple le plus parlant restant... le film La nuit du chasseur, où le personnage principal a tatoué sur une de ses mains Love et sur l'autre Hate. L'amour, la haine, il est partagé entre les deux, et finalement, non pas vous, hein, parce que vous êtes bon à 100%, mais en général, les gens sont toujours une part comme ça d'eux qui peut basculer d'un moment ou à l'autre.
Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de mécanique du thriller, le côté haletant, etc. C'est quelque chose quand même qu'on retrouve ici, par exemple. En règle générale, là où sur Gueule cassée ou sur Naufrage, dont on parlera aussi tout à l'heure, il y a une densité de faits, d'action et de destins croisés sur un temps très court. Bien sûr, les personnages, ils ont une histoire qui les amène à ce point-là, mais on a le sentiment que vous déplacez le curseur jusqu'à la période critique où tout va s'imbriquer, et c'est surtout le cas dans, enfin, c'est notamment le cas dans Bombe. Je crois que c'est le premier que j'ai lu de vous, celui-ci d'ailleurs, qui est très prenant parce que ça se passe sur 24 heures, de 1h du matin à 1h du matin. Un des lieux qu'on peut connaître, c'est à Lyon. Lyon un peu périphérique, enfin les friches, les bretelles d'autoroute, etc., mais aussi Lyon plus urbain aussi. Et donc les destins se croisent, et c'est une course-poursuite pendant une journée qui est très prenante, mais ça ne fonctionne pas comme un thriller parce que justement il y a quand même un malade mental là-dedans. Enfin, il y a un type qui déclenche quand même les choses.
Ouais.
Il y a un vrai méchant. Quand même. Il y a un vrai méchant. Mais
il y en a.
Surtout dans ce milieu.
La réalité dépasse toujours la fiction.
Ouais, il y en a.
Si vous regardez la télé en ce moment, les méchants, il y en a.
Il y en a, il y en a. D'ailleurs, on croise plusieurs milieux. C'est un truc qu'on va retrouver aussi dans vos autres livres. Ce côté, le réalisme, le réalisme qui s'attache, par exemple, quand vous décrivez un métier, enfin, des personnages, ils sont jamais esthétisés ou flottants au-dessus d'une réalité, ils sont vraiment ancrés dans la réalité, et il y a toujours un environnement crédible de leur métier, par exemple. C'est dans... Par exemple, dans Gueule cassée, qui est, pour ce que j'ai lu de vous, un livre qui me paraît particulièrement ambitieux, disais-je, parce que il investit un panorama social et de caractère qui est vraiment impressionnant sur un ouvrage comme ça, qui est justement aussi très prenant, etc. Et donc à chaque fois que on croise des personnes qui travaillent, on voit concrètement quel est leur métier. Et la personne qui s'occupe des vieux à l'EHPAD, elle est dans son métier, elle est dans son métier. Même des gens qui enregistrent dans un studio, on parlera de la musique bien sûr, très importante pour vous, mais qui enregistrent dans un studio un album de rap, c'est précis. Et puis évidemment, pour les mariniers, il y a tout, j'allais dire, c'est le vocabulaire des métiers vous intéresse aussi, ça ajoute de la richesse, de la rugosité.
Alors pour moi c'est indispensable de faire exister les personnages dans ce qu'ils sont, et je pense que d'ailleurs c'est ce qu'on avait reproché, sans que je me permette la comparaison, à Zola. C'est-à-dire que, on va dire, jusqu'à cette période de la littérature, les histoires qui sont racontées dans les romans arrivent à des comtesses, à des bourgeois,
oui,
à des gens dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font dans leur vie. Hein. C'est-à-dire ils ont de l'argent de toute façon, et ils ont des peines de cœur, ils ont des envies de vengeance, mais voilà. Et puis arrive une littérature où, brusquement, on met des mineurs, des ouvriers, des prostituées, des voyous, des menuisiers, voilà. Bon. Et moi, je suis ce con-là de cette littérature-là. Mes grands-pères, les deux, étaient ouvriers. J'ai grandi avec ça et c'est ma famille, on va dire. Bon. Et donc, quand je parle de quelqu'un, et puis nous tous, on le sait, on est quand même beaucoup travaillé
par
le boulot qu'on a eu.
Bien sûr.
Ça a été notre insertion dans le monde, notre aussi façon de rencontrer les gens, etc. Alors... ça, pour moi, ça donne du cher au livre. Alors, ça m'a été reproché pour Gueule cassée, par exemple, chez Gallimard.
Ah, bon.
Parce que ça sort un peu du roman au sens où le roman doit garder un personnage central, un peu un pivot. Et en tout cas, c'est ce qu'on m'a reproché à ce moment-là, et ce que je comprends. Hein, parce que moi-même, j'avoue que c'est un de mes problèmes quand je pars sur un roman comme ça, c'est que tous les personnages m'intéressent. Et m'intéressent également.
Oui.
Et que, du coup, c'est assez compliqué de faire tenir tout ça autour d'une intrigue où chacun va avoir sa carte à jouer à un moment donné et va pouvoir faire basculer l'histoire dans un sens ou dans un autre en fonction de la manière dont il y arrive, etc. Bon, voilà. Mais quand j'avais commencé ce bouquin-là, je me dis bon, allez.
Bon. Mais le personnage qui aurait pu mener tout le récit, c'était peut-être Cindy, je sais pas.
À mon avis, c'est elle.
Bah, d'abord parce qu'elle survit. C'est quand même. Alors, c'est un jeu de massacre. Pas spécialement celui-ci, mais la fin de Bombe, par exemple, il y a quand même pas beaucoup de survivants à la fin.
Parce que quand j'étais à Lyon, sur mon bateau, on a malheureusement vécu à ce moment-là l'attentat de Charlie Hebdo. Et puis le Bataclan derrière. Et moi, j'ai été frappé quand même par cette. Bon, alors, il y a eu des manifestations, le corps social français, c'est quand même. Voilà, mais il y a eu tout un tas de trucs autour. Quand par exemple, la police a tiré à l'arme lourde sur un immeuble où étaient des gens qui avaient servi de relais aux terroristes, ils ont désingué des apparts tout autour. Il y a des gens qui ont été blessés et qui n'ont jamais été indemnisés. Ouais.
Mais ils ont utilisé milliers de balles.
Ils ont carrément... C'était, l'immeuble, c'était une scène de guerre, quoi. Voilà. Donc, cette violence-là, elle est présente dans le corps social. Et puisqu'on parle du travail, il faut quand même se rappeler que les accidents du travail font beaucoup plus de morts tous les ans que les attentats terroristes. Hein. Et que c'est une violence physique, des blessures. Les gens qui travaillent sur les chantiers, qui se cassent le dos, qui sont des entorses, qui se bousillent les genoux pour les carreleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un carreleur de 50 ans se relever, mais là, il y a une forme de violence qui est quand même... Voilà, dont on ne parle pas ou peu, sans parler de ceux qui travaillent dans les usines chimiques et qui respirent des cochonneries toute leur vie, enfin bref. Donc voilà, donc la violence c'est quelque chose de très relatif. Mais je suis... Alors tu dis c'est un jeu de massacre, mais je n'ai pas l'impression de m'alourdir sur ces questions-là. Il y a deux choses que j'ai du mal à manipuler, c'est le sexe et la violence, parce que... À la fois dans les situations qu'on décrit dans le roman noir et dans le polar, c'est quand même des passages, on va dire, presque obligés, mais j'ai toujours peur de transformer le lecteur en voyeur, c'est-à-dire qu'il y ait une fausse compréhension de l'affaire. Donc c'est toujours compliqué d'arriver à montrer que c'est juste l'aboutissement, en fait, c'est le moment où ça se voit. Mais en fait, souvent, la violence, elle existe depuis bien avant.
Oui, bien sûr.
Et juste pour terminer, je ne peux pas.
Non, mais
vous allez vous en rendre.
On a le droit de déraper.
Et j'animais à la fac du Havre une unité d'ouverture sur le roman noir. Et le premier texte que je distribuais aux étudiants, c'était un texte de Zola, qui est tiré de La Bête humaine. Mais plus gore, c'est impossible. C'est carrément la description de comment l'entier ouvre le ventre de sa maîtresse avec le sang qui ruisselle. Enfin, voilà. Mais c'est Zola, alors bon, voilà, maintenant
c'est classique. Ça se dit en classe.
C'est passé à la postérité.
Violence sociale, voilà, parlons-en. Déjà le titre, gueule cassée. Ça commence par une manif des gilets jaunes. On se dit, il y en a un qui va se prendre une balle de flashball dans la tête, puisqu'il suffisait de sortir d'une brasserie pour se faire défoncer la tête, être handicapé à vie après. Ça va, ils s'en sortent. petite. Il y a quand même. Ça paraît comme ça, très, très lourd, tout ça. Quand même de l'humour. Hein. Donc, nos manifestants sont embarqués, trouvent un chauffeur de véhicules d'utilitaires, les plombiers, ou je ne sais plus, enfin bref, qui se trouve là et qui les embarque, mais qui est bien d'accord avec eux. Le chauffeur commente la situation politique avec finesse. C'est un vrai enculé, ce Macron. Quand je pense que j'ai failli voter pour lui, il fait même pas semblant. Tout pour les riches, et nous on en prend plein la gueule. Mais comme dit mon pote, ça va finir par lui retomber dessus. Punchline. On peut pas serrer la ceinture et baisser son pantalon en même temps. Êtes-vous celle-là?
Ah, oui, je crois.
Ouais, oui, ça c'est très drôle. Voilà, et donc je pense que ça peut être conservé et redit d'autres fois. Gueule cassée, en fait, la gueule cassée, ben, on voit bien à quoi vous faites référence, mais c'est un personnage, un jeune homme, qui s'appelle Julien, et qui au travail s'est fait brûler une moitié du visage. C'était l'amoureux de Cindy, justement, qui elle vit. Invité sur une de ses péniches qui appartient à Simon, je crois.
Au père de Julien.
Au père de Julien, d'accord. Donc, Julien. Et du coup, sa vie est fracassée et ses amours sont fracassés. Et c'est un triste parcours parce que c'est un type bien, ce gamin. Il s'est fait. Brûler le visage parce que c'était au travail. Il a voulu trop propos, bien faire.
Le propos du bouquin Gueule cassée, c'était pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une génération aujourd'hui, qui a 35 ans, on va dire, qu'on n'a pas envoyé dans les tranchées, mais qu'on a quand même bien, à qui on a rendu la vie bien difficile. Quoi. Et je pense que ce qu'il est. Qui caractérise tous, et, enfin tous, beaucoup d'entre eux, c'est cette difficulté à se projeter dans l'avenir. Quoi. Alors là, évidemment, on est dans un roman, donc on va donner des trajectoires particulières à ces personnages. Bon, c'est vrai que c'est un accident de travail, mais un accident de travail qui vient de... Puisqu'il est... En fait, il y a une tour de distillerie où circule de la vapeur, et il y a une pompe qui se met à fuir. Avec de la vapeur à haute pression. Lui, Julien, il est opérateur, donc il est dans un bureau et il voit les voyants qui s'allument. Et son boulot, c'est de faire un rapport. C'est de dire à telle heure la pompe, elle a commencé à fuir. Voilà. Et puis de déclencher les procédures de sécurité, c'est-à-dire qu'on quitte l'endroit où il y a une fuite. Voilà. Mais il a hérité de son père, marinier, l'amour de la bricole, de trouver des solutions, de pas se laisser... Donc il prend une clé à molette et il va sur la panne, en fait. Son pote lui dit, laisse tomber. Et lui, il veut y aller. Quoi. Et c'est en manipulant la panne qu'elle explose et qu'il se prend le jet. Donc, à la fois, c'est le résultat d'un accident industriel, mais c'est aussi, d'un certain point de vue... une erreur de sa part, il n'avait pas à faire ça, il n'aurait pas dû être là, et c'est encore une espèce de pesanteur de son passé, de sa conception du monde qu'il a payé cher là, sur le coup. Quoi. Mais en fait, avec Cindy, ils ont des relations un peu compliquées, de complicité enfantine. En fait, les quatre héros du bouquin se sont connus à l'école primaire, dans la classe d'une institutrice. Et depuis ce moment-là, ils ne se sont jamais véritablement quittés, même si leur vie les a un peu écartés, mais ils ont toujours gardé un lien comme ça. Et Cindy et Julien sont une relation qui relève de l'amour, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble, vraiment, parce que, voilà.
Il y a beaucoup d'affection et de tendresse entre eux, quoi.
Ouais, voilà. Et là, évidemment, depuis l'accident, Julien, on ne peut plus envisager, puisque... Pour lui, il est devenu un boulet pour tout le monde, donc il ne va pas infliger sa présence à Cindy. Voilà. Donc, mais je pense que, enfin voilà, l'idée, c'est de mettre tous ces personnages.
Juste citer, à propos de Julien, il est devenu laid, très laid, mais il sait que ce n'est pas ça qui a fait la différence. C'est venu de tout au fond de lui, cette sournoise séduction du malheur. Il n'arrive pas à comprendre. cette pesanteur qui l'empêche d'envisager les choses de manière positive. Il est vivant, ce qui est une sorte de miracle. Il faut voir les choses du bon côté, comme lui a dit sa femme avant de le quitter. Comment lui en vouloir? Il a répondu en ricanant, c'est vrai, il me reste un côté présentable. C'est ce genre d'humour cynique qui lui tient lieu maintenant de système de pensée. Des remarques aigres et douloureuses comme les derniers spasmes quand on n'a plus rien à vomir.
Ben...
parce qu'en plus c'est pas mal écrit.
Oui, mais je pense que voilà, on est parfois bon là lui il est dans une situation, peut-être qu'il y avait un chemin de résilience, on va dire, peut-être. Mais l'aspiration de la douleur est forte, quoi. L'histoire va faire que il va avoir d'autres.
Alors c'est une histoire complexe quand même, puisque nos amis, enfin dont il y a un personnage donc qui est de la, ben, ils sont tous les trois de la même génération, Cindy, Julien et Simon. Simon a un projet dans une friche d'installer une sorte de ferme. Enfin de lieu agricole un peu alternatif, un peu voilà, mais c'est pas un doux rêveur. Il a vraiment monté un dossier très très costaud. Ce qui m'a fait plaisir dans ce livre, c'est que il y a quand même un politique qui n'est pas pourri. Je me suis dit, merci, parce que non mais la tendance est très facile et m'agace beaucoup de mettre tous les politiques dans le... Et donc il y a un politique qui est pas pourri et qui suivrait bien Simon sur ce trajet-là, sur ce projet-là, mais ça va à l'encontre d'intérêts beaucoup plus trapus, on va dire, avec un architecte alors là complètement véreux, ce qui fait que d'ailleurs on traverse dans ce peu de temps que se déroule l'action, des milieux donc l'EHPAD, les tournages porno, les friches industrielles, les points de deal, la péniche, l'EHPAD, enfin voilà, et jusque au resto avec vue sur Seine. Ça se passe dans autour de Paris, c'est pas vraiment Paris, c'est
ouais, ouais, c'est sur la, enfin c'est entre la Haute-Seine, on va dire, ce qu'on appelle la Haute-Seine, c'est-à-dire quand on sort de Paris, on a à gauche la Marne et à droite on monte vers Nogent-sur-Seine sur la Haute-Seine, quoi.
D'accord.
Donc c'est dans ce coin-là. Mais ça
quand on sort de Paris
en bateau, oui, pardon. Mais c'est vrai qu'on avait été frappé. On a sorti le bateau un jour, on était amarré au-dessus de la passerelle de Crimée sur le canal de l'Ourcq. On est descendu par le canal Saint-Martin, on a traversé, on est passé sous la place de la Bastille, on arrive à l'Arsenal, là vous voyez le port qui est là, et là on sort en Seine, il y a une écluse. Et juste avant de sortir, on passe devant un café qui s'appelle le Point Éphémère, et là il y avait, d'ailleurs depuis le haut du canal Saint-Denis, il y avait partout des migrants qui dormaient sous les bancs, dans des tentes. Enfin, c'était un spectacle assez difficile, on va dire. Et à peine on passe l'écluse, on remonte 3 km sur la Haute-Seine, et là vous avez un défilé de maisons dont vous imaginez même pas le luxe, parce qu'on les voit pas de la, on les voit pas de la route, on les voit que du fleuve. Mais c'est incroyable, quoi. Incroyable, à toute proximité de Paris, quoi. Vous avez des, j'en parle en bouquin, mais d'immenses villas avec pelouses qui descendent sur la Seine, port privé, le bateau qui est au bout, enfin. C'est fou. Donc, il y a Paris, c'est ça, enfin, comme toutes les grandes villes.
Oui, comme toutes les grandes villes. Ouais.
Toutes les métropoles, comme Lyon. Vous avez la face qu'on. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais Madame Hidalgo, avec tout le respect que j'ai pour elle, est en train de faire le ménage des migrants et compagnie, et des SDF et tout, pour les Jeux Olympiques. Là, ils sont en train d'organiser le nettoyage de la ville pour que la ville rutile de tous ces feux quand les touristes vont arriver. Voilà.
Enfin, faudra nettoyer les punaises de lit.
Pardon.
Il faudra nettoyer les punaises de lit, mais ça va être un gros problème.
Et voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est le rôle du roman noir, c'est d'aller, en l'occurrence, en plus sous la surface de l'eau, quoi, d'aller voir un peu ce qui se passe dessous, quoi.
Oui.
Et des tensions qui travaillent cette ville en profondeur.
Alors, au fil de votre discours, je prends un livre, un autre, etc., pour rebondir sur ce que vous dites. Bon, je suis en retard. Vous avez parlé justement de ces, des migrants. C'est ce qui a inspiré ce livre, hein, ouais. Peut-être, Naufrage, hein, voilà, donc un court livre. Désespérant, je sais pas, enfin.
C'est, ça fout, désespérant, oui, ça non, met un plomb. C'est vrai que...
Ça plombe quand même, c'est dur. Enfin, c'est l'injustice qui est insupportable.
Nous, c'est l'impression, enfin là, on était amarrés au canal de l'Ourcq, là, et juste la place qui est à côté, là, hein, je sais pas comment ça s'appelle.
Stalingrad.
Le soir, tous les soirs de cet été-là, vous avez 400-500 personnes qui tirent des matelas et qui dorment à même le trottoir sur je sais pas combien de dizaines d'hectomètres carrés, enfin tu vois. Et tous les soirs, puis le matin, ils empilent les matelas sous le métro, là, et le soir, ça recommence, et là, vous avez des hommes, des femmes, des enfants. Alors, la ville de Paris avait installé des espèces de, on dirait, des abreuvoirs, là, je voyais des grands trucs en inox, là, pour qu'ils puissent faire une toilette sommaire le matin. Il y a quand même des associations du quartier qui servent des petits déjeuners, qui font ce qu'ils peuvent pour aider les gens, etc. Mais on voit bien que le problème est sans fond. Que c'est pas là qu'il va se régler. Tu dis que c'est désespérant, mais je pense que ces gens qui arrivent là sont pas armés pour comprendre ce qui leur arrive dans cette ville, quoi. Il faut imaginer. Moi, c'est ce qui m'avait frappé, c'était d'imaginer le choc culturel. Là, j'ai imaginé que le gars, il est fils d'un pêcheur en Somalie, dans la pointe de l'Afrique. Là. Vous voyez, c'est ce type de gens qui arrivent, qui vivaient encore de la pêche sur leur barque et qui vendent leur pêche, puis un jour qui sont contraints à l'exil et qui déboulent dans une ville dont ils n'ont aucun code.
Une autre planète.
Aucun code, c'est-à-dire tout ce qui fait leur vie, tout ce qui fait leur manière de parler aux gens, tout ce qui fait leur compréhension des rapports sociaux, des rapports entre hommes et femmes, des rapports, tout ça vole en éclats du jour au lendemain. Et il faut s'adapter. Et il faut... Il y a une injonction voilà. Donc.
Vous parliez de la violence. Donc, les gens sont faits aussi de leur passé. Et le personnage qu'on va suivre là. Alors, du coup, là, c'est pur serré sur quelques personnages. Une femme qui vit dans une péniche, militante, etc., qui va essayer de. Qui prend sous son aile une jeune africaine, Nafi, qui vient d'Afrique centrale, enfin, je me souviens plus où exactement. Elle vient de la violence, échappe à la violence par la migration, et n'a pas laissé la violence dans son pays, quoi. En fait, la malédiction continue. La damnation qui fait qu'on est obligé de partir de chez soi, on la retrouve là aussi où on débarque. Et c'est en ça que je disais que c'était un peu... il y avait un côté désespérant, parce que on a le sentiment que... quels que soient les outils pour aider, les gens ne viennent pas seuls, intacts, ou du moins sans... ils apportent aussi des problèmes qui les rattrapent. C'est le cas de Nafi, là, par exemple.
Oui, alors, bien sûr, mais l'objectif de la fiction par rapport à un documentaire, c'est de faire en sorte que les lecteurs, en entrant dans les personnages, on l'espère, on fait tout pour, puissent voir le monde d'une autre manière, en fait. C'est-à-dire voir par les yeux de ces gens-là, essayer de... Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur les migrations que je pense que les gens ne perçoivent pas ce principal problème. C'est-à-dire cette rupture culturelle, cette difficulté incroyable... Et qui évidemment s'alourdit plus on est d'extraction populaire, parce que mais si vous venez du Liban mais que vous avez fait des études supérieures, hein, c'est clair que à l'arrivée en France c'est pas la même chose. Vous parlez français, peut-être que vous connaissez quelqu'un, ou en tout cas voilà. Évidemment, si vous êtes pêcheur somalien, tout devient beaucoup plus compliqué, quoi. Donc l'objectif du livre c'était ça, c'était d'essayer de montrer que, y compris cette femme qui elle-même est issue d'une immigration beaucoup moins mal vue, on va dire, mais qui donc a de l'empathie pour ces gens et qui essaye d'eux, elle, elle doute un moment. Quand ma fille
c'est terrible, elle doute.
Mmh. Et des vieux préjugés ressortent, y compris dans sa tête. C'est-à-dire que on est tous pourris par cette histoire qui pèse, par le récit qui tourne autour de l'immigration, qui est rabâché sans cesse dans les médias, etc. Et même quand on fait tous ces efforts, on n'en est jamais complètement indemne. Oui, donc l'idée de ce livre, c'était de montrer que, pour moi, il y a des issues, parce qu'il y a des personnages positifs dans ce...
Bien sûr, des
gens qui tirent dans le bon sens, mais le challenge est énorme, quoi. Et en tout cas, très vraisemblablement, la solution n'est pas là. Moi, je pense... Bon, là, on sort un peu de la littérature, mais je pense quand même que dans cette phrase horrible qu'avait dit et qui a été trafiquée mille fois par Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il y a une chose qui est juste, c'est-à-dire que les gens, ils ne seront jamais plus heureux que chez eux. On est de chez soi, bon, à part, on peut avoir envie de voyager, mais les migrants, ils ne voyagent pas. Nous, on voyage parce qu'on a des papiers, on va et on revient quand on veut. Eux, ils ne voyagent pas. Hein, ils sont voilà. Mais je pense que la solution elle est extrêmement compliquée, mais elle est vraisemblablement sur le continent africain. C'est là qu'il faudra que les choses changent pour que les gens ça va pas s'arranger avec les modifications climatiques, mais c'est quand même là qu'il va falloir trouver des solutions, parce que moi j'ai rien contre le métissage culturel, évidemment, c'est pas le propos, mais je veux dire il y a des problèmes d'adaptation qui ne pourraient se régler que dans des périodes beaucoup plus calmes et de manière plus plus avec plus de recul, quoi. Voilà, ouais. Là on est dans des situations très compliquées.
Oui. Et c'est pour ça que même on voit que c'est bonne volonté, donc voilà, je vous conseille.
Alors je crois que je sais pas si
Le libraire a pas pu les avoir, mais ils sont au Carnet Spiral à partir de demain. N'hésitez pas à y faire un tour, ou dans une autre librairie, bien sûr. Mais enfin, il sera disponible là-bas. Oui, parce que voilà, il y a les bonnes volontés. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme qui s'appelle Nafi, qui vient d'Afrique. Et qui se retrouve dans cette autre planète qu'est Paris, et qui a quand même des appuis, et notamment une femme qui essaye de l'aider, etc. Et en fait, c'est ses pères, enfin ses proches, notamment un garçon qui aime cette fille, qui en est amoureux et jaloux certainement, qui va la ramener, la faire tomber, la faire chuter. Et effectivement, la femme qui voulait s'occuper de Nafi, Nafi est accusée d'être une prostituée. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, mais comme vous le dites, il y a un bagage culturel qui fait qu'on se dit ah ouais, pourquoi pas, quoi, et je me suis trompé. Et c'est terrible parce que tout retombe comme ça. J'avais envie de vous demander de lire un passage de Bombe. On va essayer quand même de parler des livres et des sujets des livres, hein, parce que là on l'a pas fait. Bombe, donc ça se passe à Lyon, ça se passe peu de temps après les attentats. On est encore, c'est Vigipirate partout, si j'ai bien compris, je crois. Enfin, voilà. Les fêtes de la fête des Lumières est annulée. C'est le moment où je crois que ils annulent le 8 décembre. Ça se passe en décembre.
Ouais, enfin, l'idée du bouquin est partie, en fait, moi je connaissais pas cette ville, en fait, une ville magnifique, une de nos plus belles arrivées en bateau par la Saône, c'est prodigieux, c'est très beau en plus. Et en fait, on a été très surpris quand, au mois de décembre, ou un peu avant, s'est allumé sous la basilique de Fourvière en lettres de feu « Merci Marie ». Bon. Pour un mécréant dans mon genre, c'est quelque chose qui est un peu choquant, et surtout quand on apprend qu'il y a des fonds municipaux qui traînent dans cette affaire. Donc voilà, d'ailleurs, il y a des associations lyonnaises qui s'en occupent, mais en pure perte pour l'instant. Voilà. Et donc, mon idée, elle était partie là-dessus. Et en fait, j'ai imaginé un gars qui tague sur les murs hein, et qui dit « Merci qui ?» Parce que lui, tous les fonds pour son association culturelle qui mêle hip-hop, rap, tag, etc., toutes les subventions étaient coupées parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a de l'argent pour faire ça. Donc, il écrit « Merci qui ?» Donc, au départ, le bouquin s'appelait « Merci qui ?»
Ah oui, c'est pas mal.
Et en fait, c'est bien aussi, hein. Le copain, enfin Pierre, l'éditeur de la manifestation de livres, aime pas les titres à question. Mm-hmm. Et puis on a appris par ailleurs que Merci qui, c'est le nom d'une émission porno sur Internet.
Donc, ah oui, d'accord, ouais.
Ça pliait l'affaire. Et donc voilà, j'ai cherché, on a trouvé Bombe. Voilà, parce que Bombe, c'était. Lui, il s'exprime avec des bombes et en même temps, on était en plein dans les périodes d'attentat.
Voilà, donc très voilà, bien.
Donc, c'était comme
et
ça.
Et donc, là, il y a une scène où donc, le graffeur, on dit graffeur,
graffeur ouais.
Greg amène avec lui un jeune qui s'appelle Choukri. Et il l'amène avec lui, c'est un peu... Enfin bon, lui, il préfère bosser tout seul, quoi. Donc, il y a Choukri qui l'accompagne. Okay. Et ils vont aller mettre un merci qui sous un pont. Et donc, si vous voulez bien lire là, de là jusqu'à après, il y a un autre. Non, mais c'est vite lu, c'est rien. Jusqu'à là. Voilà. D'accord.
Il y a un vague chemin jusqu'à la maçonnerie du pont. Greg attrape la première poutre et s'installe accroupi sur le rebord de pierre. Choukri le rejoint en sportif. De là où ils sont, la vue a changé. Ils dominent la noirceur épaisse du fleuve qui creuse des tourbillons rageurs à chaque arche du pont. Fuyant dans l'ombre, le réseau de poutrelles métalliques de ponts de chemin de fer voisins dessine une forêt complexe dont les troncs de pierre sont enfoncés dans le lit de la rivière. Greg assure son sac et se relève en souplesse. Il y a une petite quarantaine de mètres à parcourir face à la paroi d'acier. Il se lance en premier en prenant soin de bien lever les pieds à pas réguliers, les mains plaquées sur le métal glacé, s'accrochant à la moindre prise. Choukri le suit sans problème, un sourire sur les lèvres. Il croise le regard de Greg et lève le pouce pour montrer que tout va bien. Greg se rend compte qu'il a peut-être jugé trop vite. Il assure. Greg progresse sans effort. À mesure qu'ils avancent, le froid se fait plus vif, le mugissement sourd de l'eau qui glisse sur les piles du pont plus menaçant. Au-dessus, à quelques mètres d'eux, la bretelle d'accès à l'autoroute. Malgré l'heure tardive, de temps à autre, un camion fait vibrer la structure de béton et d'acier. Greg se force à respirer à fond. Les battements de son cœur s'accélèrent. Il pense à Marcel, à l'usure de son regard sombre. Une sorte de joie sauvage l'envahit, une excitation qui ressemble à s'y méprendre à la vie. Il est là. Il ralentit et se tourne vers Choukri. On ne peut pas se croiser sur ce passage, c'est trop étroit. L'idée ne me viendrait même pas. On va faire un aller-retour, je trace les lettres à l'aller, tu passes le rouge derrière moi et au retour, je fais le contour. Tu vas écrire de droite à gauche, à l'envers. Occupe-toi de ce que tu as à faire et sans te casser la gueule. Ça sera déjà pas mal. Greg a sorti son feutre. Il passe la bande de rouge à Choukri. Pas moyen de prendre le moindre recul. Il laisse la mémoire de son corps. Il laisse parler la mémoire de son corps, pardon. Il avance doucement, traçant les lettres sans hésitation. Choukri est bluffé. Il a l'impression de voir le bras d'un robot guidé par une imprimante. Greg se retourne. Son compagnon n'a pas bougé. « Eh, tu te décides ? Tu préfères qu'on revienne demain pour la deuxième couche ?» Choukri secoue sa bombe et se met au travail. Il s'est installé légèrement de biais, tournant le dos à Greg pour dégager son bras droit et être plus à l'aise. La masse du pont les protège des grosses rafales qui sifflent sous eux. Mais par instant, le vent remonte en léchant les épaisses tôles rivetées, emportant avec lui le nuage de peinture. Choukri attend une accalmie et reprend son avancée. Il n'a pas tout de suite compris que c'était des voix. C'est quand il a regardé vers le haut, il a aperçu les têtes au-dessus du parapet, pas vraiment amicales. « Greg, il y a du monde sur le pont. Ils ont l'air d'être décidés à nous faire chier. Greg est concentré sur le dessin, il ne lève pas la tête. Ils vont se barrer quand ça finira de les amuser. Continue. Et puis, les insultes. Du classique. Greg s'est rencogné dans un coin, près de la pile, sa musette devant lui. Il sort sa bombe de peinture noire. Choukri arrive presque au bout, il se redresse. Allez vous faire enculer, connard! Greg prend la bombe des mains de Choukri et la range dans sa musette qu'il remet dans son dos. Mais ferme-la, bordel, tu crois que c'est une bonne idée de les provoquer? Allez, pousse-toi, plus vite on va finir, mieux ce sera. Choukri hausse les épaules. Tu crois quoi? Qu'ils vont venir nous chercher ici? Greg s'est remis à l'ouvrage en silence et Choukri recule doucement un petit pas chassé sur la poutrelle étroite. Le grondement d'un moteur enfle sous la voûte, les traves d'une barge à pétrole ouvrant la masse noire de l'eau pointe au milieu des deux piles du pont. Des deux piles de pierre. Le pont du bateau, éclairé par des néons industriels, défile sous leurs pieds, un labyrinthe géométrique de canalisations, de vannes, de ponts, de coursives, d'escaliers, de rambardes. À la lumière du cargo, il n'y a plus de doute. Ce ne sont pas des fêtards curieux. Greg accélère encore. Des flics en civil, c'est ce qu'il a cru au début, jusqu'aux insultes. Il connaît ce genre d'enfoirés. Des gros beaufs qui pensent que les graphes salissent leur ville, mais qui ne trouvent rien à redire aux panneaux publicitaires. Ou des ivrognes en fin de soirée. Ou les deux à la fois. Jamais il n'est parti avant d'avoir fini.
Et après, c'est le drame. Après, c'est le drame. Et ça va nous entraîner. Je ne sais pas si on dit de quel drame il s'agit, peut-être pas, c'est pas la peine. Mais en tout cas, Greg va être poursuivi ensuite. Voilà. Et ce seul moment va entraîner le destin de beaucoup de personnages.
Ouais, mais je trouve que c'est toujours assez fascinant de voir.
L'effet
domino, mais en même temps, quand on parlait de faits divers tout à l'heure, on voit bien à quelle vitesse les. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est à quel moment les vies basculent. C'est-à-dire, en fonction des choix qu'on fait les uns ou les autres, des endroits où on se trouve, la manière dont on va accepter d'entrer ou pas dans une histoire, on est entraîné ou au contraire on reste, tu vois, un spectateur de ça. Et là, en fait, pour des tas de raisons, il y avait comme une logique à ce qu'ils se retrouvent tous là-dedans, quoi. Oui, parce que chacun a fait des choix qui l'a mis d'une certaine manière en marge de. Je veux dire, ils ne rentrent pas chez eux le soir juste après le boulot pour regarder la télé. Il y en a un qui est musicien, l'autre qui est une jeune femme qui est un peu sur la route. Julien qui fait des graphes, etc. Donc, ils avaient tous déjà fait des choix qui, d'une manière ou d'une autre, les plaçaient un petit peu à la marge. J'aime pas là forcément parce que ça a une connotation, ils n'ont presque même pas voulu, quoi.
Oui.
Mais je veux dire, voilà, ils vivent pas comme tout le monde, et donc ils se retrouvent à des endroits
où il vaut mieux pas être à certains moments.
C'est ça.
On va parler un peu d'engagement avec ce collectif. Ça s'appelle Stop. Vous voulez en parler un peu?
Tu veux que j'en parle un peu?
Ouais.
Ben, c'est Olivier Bordassard, qui est un copain qu'on a rencontré, qu'on a croisé sur des festivals de polar, qui est un auteur de romans noirs, qui a écrit aussi le théâtre, qui joue aussi la comédie, un spectacle qui s'appelle. Sauvons les hérissons. Enfin, c'est un mot comme ça. Qui est une histoire décalée, très marrante et qui est en même temps super bien faite. Qui n'est pas marrante à la fin, mais qui est marrante au début en tout cas. Souvent comme ça, en roman noir. Et donc il a eu l'idée de. Il est comme, je pense, beaucoup d'entre nous, à constater que le monde est en train de partir dans une direction un peu difficile, qui a rappelé les températures qu'on a encore aujourd'hui pour imaginer que les années qui viennent vont être encore un peu plus compliquées. Et puis que les divers cris d'alerte, que ce soit par les experts du GIEC, que ce soit par des activistes comme Greta Thunberg ou plein d'autres, pourtant gens qui développent des discours mesurés parfois et très bien argumentés. On n'a pas l'impression que les choses changent beaucoup, même si y a des petites choses qui sont réalisées. Donc il a décidé de proposer à des artistes, des auteurs pour la plupart, mais il y a aussi des photographes, oui, de faire un livre un peu manifeste autour de ce thème-là, dire stop, comment on peut chacun essayer de peser pour que des décisions soient prises qui enrayent un peu la machine infernale sur laquelle on est installé. Donc on est 68, dont vous,
mon
cher ami.
Oui, oui, d'accord. Et moi, je pourrais bien plus.
Avoir écrit, alors je crois qu'on avait 5000 signes maximum.
Oui,
une liberté totale, c'est-à-dire que ça pouvait être aussi bien un essai ou bien une nouvelle ou un poème ou ce qu'on voulait, quoi. Mais simplement ce thème, quoi. Voilà. Et c'est sorti, Pierre Aujourd'hui qui a sorti une bombe à accepter, ce qui nous donne une visibilité qu'on n'attendait pas parce que on ne pensait pas qu'une maison d'édition de ce calibre sortirait ce livre. Et donc on a essayé un petit peu partout en France d'organiser des discussions autour de ce sujet. Alors il y a un copain qui dedans, qui va venir d'ailleurs bientôt à Rouen, qui s'appelle Marin Ledin, qui a écrit un texte qui dit en gros, en substance, que la littérature ne change pas le monde et qu'il faut plutôt faire confiance aux gens dans les associations, dans les villages, dans les villes, les élus, etc., les citoyens en tant que tels, pour peut-être faire un peu bouger les choses. Alors, il n'a pas tort, maintenant, je pense que bon, ce livre, c'est une petite pierre, hein, ça ne va pas chercher plus loin, mais si on veut susciter quelques débats
Et donc, là, vous avez pris le parti d'une... ça a été très actuel, hein, c'est comment un artisan est noyé par... s'en sort plus et plonge dans l'alcool, etc.
Non, donc, en fait, le thème de la nouvelle, c'est en fait, ce type, il était boulanger dans un petit village avec sa femme, dans une petite boulangerie, gagnait sa vie convenablement.
Et oui, et on arrive à le convaincre.
Il nourrissait ses enfants, tout allait bien, et il aurait pu continuer comme ça. Et puis, comme il fait du bio, il y a des gens qui viennent d'un peu loin, et puis il est pris en charge par des politiques qui veulent en faire un peu leur tête de gondole, quoi. L'entrepreneur vert du futur, quoi. Et comme ils ouvrent une ZAD, enfin une zone commerciale, on le pousse à construire une grande boulangerie où il va pouvoir vendre plus de pain bio, etc. Et lui, sa femme le met en... lui dit, fais attention. Et lui, il y va. Évidemment, c'est la catastrophe. Mais c'est, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il fait ça. Alors lui, il ne sait pas non plus, d'ailleurs.
Oui, c'est pas vrai.
Mais pourquoi on continue à acheter des grosses voitures alors qu'une petite suffit? Pourquoi on continue à aller en vacances aux Bahamas alors qu'on a, à 50 km de là, des paysages d'une beauté incroyable? Et ça, on est tous à se poser cette question. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire des efforts dans des domaines qui ne nous coûtent pas. Mais par contre, quand ça commence à empiéter sur notre mode de vie, ou sur nos ambitions, ou sur notre manière d'être au monde...
Ça devient le combat devient secondaire.
La nouvelle était pour essayer de montrer ça, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il est victime du monde, de la mondialisation, il est victime des banques, il est victime de tout ça, mais personne n'est obligé. Le paysan qui achète un tracteur à 300 briques, bien sûr qu'il est victime du Crédit Agricole, mais en même temps, il y avait peut-être moyen de faire autrement. Il pouvait l'acheter avec 10 autres paysans, il pouvait avoir des terres moins grandes, il pouvait se mettre moins... Je veux dire, pourquoi on continue comme ça, alors qu'on voit bien qu'on va dans le mur? Et on discutait la dernière fois avec les gars de la Confédération paysanne, c'est quelque chose qui a encore beaucoup de mal à passer, cette réflexion-là.
Oui, bien sûr.
Beaucoup de mal. Alors, on nous y aide pas, il faut reconnaître. Que ce soit la pub, que ce soit les décisions gouvernementales, que ce soit la propagande d'un certain nombre d'officines, puisqu'on parle d'agriculture, on a fait des soirs par exemple, mais n'empêche, on a tous une responsabilité dans ce domaine, quoi.
Il y a un vers de Sébastien Rutès, là, qui a participé au collectif, et qui se termine par « Il n'y a jamais eu d'homme plus riche que le dernier homme sur Terre. » Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en aura jamais.
Et vous-même avez raconté l'histoire de...
Oui, ça fait partie des trucs un peu dégueulasses que voilà, c'est voilà, oui, bon.
Ben, vas-y.
Mais oui, mais je suis pas là pour parler
allez-y.
De moi.
Je vais pas y arriver. Ouais.
Non, c'est je sais pas si vous connaissez le phénomène du mukbang. C'est un phénomène coréen d'origine où en Corée le repas est un moment de partage familial et amical, etc. Et en Corée du Sud, les gens sont plus, enfin il y a de plus en plus de célibataires, de personnes isolées, etc. Et donc un phénomène est né sur YouTube où les gens se filment en train de manger, de façon à ce que d'autres partagent, voilà, virtuellement, indirectement, etc. Mais comme tout phénomène, il s'amplifie. Et il se dégrade, et il est dévoyé et perverti. Et donc, on en est aujourd'hui avec ce phénomène du mukbang qui n'est rien d'autre que des gens qui baffrent devant leur caméra. Mais baffrer, c'est... vous imaginez, je sais pas, vous allez dans un hôtel ou un restaurant avec où le buffet est à volonté. Vous voyez tout ce qu'il y a ? Ben, tout ça est mangé par une seule personne dans un repas devant sa caméra. Voilà. C'est des repas à 5000, 10000 calories. Ce sont des gens qui se tuent, qui se suicident en mangeant et qui ont quelques 1 million, 2 millions d'abonnés. Voilà. Et qui. Et voilà. Et donc il y a des commentaires fascinants. C'est dégueulasse, on ne peut pas regarder jusqu'au bout, c'est une honte, etc. Mais qui regardent. Voilà. C'est ce petit vertige que j'avais envie de faire partager parce que voilà, on se dit oui, là, enfin, comment voilà, stop, réfléchissez deux minutes et voilà. Enfin, c'est une forme de pornographie aussi, mais enfin de fascination pour des gens qui vont au bout d'un truc. Mais bien sûr le la conséquence aussi, les personnes qui font ça deviennent riches aussi. Parce qu'ayant 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, c'est même si les visionnages se font en centimes, mais c'est-à-dire leur rapporte quelques centimes à chaque fois, sur des millions, évidemment, ça commence à faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc ce sont des personnes qui deviennent riches quand même en baffrant devant leur caméra. On a passé un petit peu plus d'une heure. Qu'est-ce qu'on n'a pas... On n'a pas parlé de ça rapidement, si près d'Amsterdam. Là, on est dans un... Ah oui, j'avais envie d'en parler quand même. Et puis ça commence par une scène de musique, un concert. Voilà. Et donc là, on retrouve le musicien. Il y a plusieurs manières d'aborder la musique en littérature. C'est voilà, moi je m'y suis jamais essayé parce que je sais pas faire. On a reçu il y a quelque temps un auteur qui s'appelle Christian De Goutte et qui parle aussi de la musique et qui lui décrit la façon dont les gens la reçoivent surtout. Et vous racontez ce qu'ils la font. La musique, voilà. Donc ça donne des scènes, si vous permettez, je vais lire ça. Pour un peu dans la salle, on aurait entendu les mouches voler si on avait fait moins de boucan et qu'il y ait eu des mouches. Le premier set, donc c'est la première partie, a été honorable sans plus, plutôt un peu mou. Peut-être les tequila rapido avalés à la pause ont-elles fait leur effet. La deuxième a été d'une autre tenue. Plus de concentration, d'énergie. Le public s'est intéressé peu à peu à nous. Les conversations se sont tues les unes après les autres. Les têtes se sont mises à dodeliner et les applaudissements se sont fait plus nourris, plus chaleureux. Un set dense, combatif, ce qui nous a valu ce rappel. Juste le temps de faire le niveau dans mon verre et on attaque Paia comme des morts de faim. Tim envoie un décompte plus auto-rapide, j'expose le thème avec une mentalité de percussionniste et je me lance en premier dans l'improvisation comme on saute à l'élastique entre jubilation et peur du vide. J'ai quasiment des crampes dans les avant-bras quand je passe le témoin, il est pianiste le personnel. Chorus de contrebasse, troisième grille. On a perdu Valentine. Elle est penchée sur son instrument, les yeux fermés. Elle l'enveloppe de tout son corps souple et plein, comme elle le faisait avec ma maigre carcasse quand nous étions encore à nous serrer l'un contre l'autre. Les doigts musclés de sa main gauche cavale sur le manche avec une agilité d'équilibriste, tandis qu'avec sa main droite, elle martyrise les cordes en gardant une cadence implacable. La ligne de basse bondit, inventive et inattendue, et se perd dans la pénombre, au-dessus de la tête des spectateurs, insaisissable comme un chat qui se faufile sur les toits en pleine nuit. Tim fait claquer avec un appétit métronomique les mandibules de son Charleston, et pour ponctuer l'affaire, il caresse de temps à autre ses cymbales. Pour ma part, je pose mes plus beaux accords dans l'indifférence générale, etc. Et il y a d'autres, dans d'autres textes, il y a aussi des descriptions comme ça de concerts. Cyprès d'Amsterdam, c'est un livre très très ironique, très.
Je pense qu'on a tous. Nous, on était à Amsterdam à ce moment-là avec le bateau, hein, mais on a tous une destination. Nous, c'était notre but d'aller à Amsterdam avec le bateau, quoi. Mais il y a aussi des gens qui s'en approchent, mais qui se brûlent les ailes quand ils arrivent à cette destination parce que ils ont rêvé d'une ville qui n'existait pas, en fait.
Oui, c'est souvent... Voilà.
Lui, il a rêvé d'une ville qui côtoie un peu, en fait, parce qu'il a quand même... Il connaît un succès d'estime en allant faire le bof dans un lieu formidable d'Amsterdam, voilà. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme il voulait.
Non, on fait une proposition idéale.
En partie encore parce qu'il est à côté de Ségolas un petit peu. C'est-à-dire que je pense comme un peu tous les artistes, on est engagés et on a dans le viseur un truc qui est un peu une espèce de rêve quand même.
Inaccessible étoile.
Puis des fois, le rappel à la réalité est un peu
brutal.
Voilà,
et là, le rappel à la réalité, il arrive dans les dernières pages et il est assez brutal.
Mais c'est presque celui-là, c'est presque pour rire.
Il y a un côté. Mais contrairement à justement d'autres récits où on foisonne de pistes de destins qui s'intriquent et qui s'imbriquent. Là, on suit un personnage vraiment.
Ouais.
C'est une très très belle lecture. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire que...
Merci.
Merci qui est-ce que vous avez des questions à poser à Dominique? Oui, un livre que... d'abord, le dernier, c'est quoi? C'est Gueule cassée?
Oui, c'est Gueule cassée.
Oui. Moi, je le conseillerais plutôt, justement, à cause de l'ampleur du récit, des différents milieux traversés et de l'épaisseur de chaque personnage, justement. C'est que il n'y a aucun figuron. Même les petites frappes et tout ça ont une épaisseur. Bombe, pour le côté haletant et voilà ça pour
pour le piano.
Celui-là, j'ai beaucoup aimé.
Tu as vu, d'accord. Pile et face, ah oui, on aurait pu parler un peu de celui-ci quand même. C'est pas pile ou face, c'est pile et face, et l'esperluette là qui est entre pile et face est très importante. Pardon. Oui, le prologue et l'épilogue encadrent un récit qui est un récit à deux voix qui disent chacune « je ». Hein. Donc c'est chapitre après chapitre, « je », etc. Mais en fait, dans le prologue et dans l'épilogue, on ne sait pas qui est « je ».
On sait sur quoi qui est mort au début.
Il y a un mort. Voilà, je voulais pas le dire. Il y a un mort au début. Et on ne sait pas lequel des deux. Voilà.
J'ai rencontré plein de gens qui sont sûrs qu'ils savent. Ils sont sûrs qu'ils savent qui c'est. Parce
ah non, moi, je ne sais pas du tout.
Mais non, on ne peut pas je savoir. Pas, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir. Enfin, je ne sais pas.
D'accord. Ah oui, vous ne savez pas. Ah oui, d'accord. Ah bon, donc c'est normal.
Il y en a qui savent.
Il y en a qui savent.
Il y en a qui savent.
Oui. Ah, oui. Voilà, et donc stop dont on a parlé, le naufrage qui est, alors j'ai dit que c'était désespérant, faut pas considérer que c'est rédhibitoire par rapport à la lecture, parce que ça reste voilà, c'est un livre qu'il faut lire, je pense, et c'est à dire que pour tout dire, j'ai lu plein d'autres trucs sur le sujet, et c'est soit adroit, soit condescendant, soit machin. Ça, c'est juste. Voilà. Pas dire mieux, c'est juste. Bah, naufrage, ça a dû. Oui, il y a d'autres. Ouais, forcément.
Ouais, c'est possible qu'il y en ait d'autres.
Oui. Naufrage, oui, c'est
ouais,
un.
Ouais, sur le...
ouais. Mais c'est pas de Dominique Delahaye. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions.
Bon.
Oui.
Ah. Le regard que vous portez sur un livre que vous avez écrit il y a longtemps. Quand le temps est passé, comment vous regardez
Alors,
vous gardez déjà, l'estime pour ce
je ne suis pas persuadé d'avoir relu un de mes livres en entier depuis qu'ils sont publiés. Je ne crois pas en avoir relu un en entier. Par contre, j'ai relu des extraits de mon tout premier. Ça m'a pas donné envie de le lire en entier. Mais en fait, moi, je me considère vraiment comme un artisan, c'est-à-dire que chaque livre est une étape. D'ailleurs, j'essaie de me donner des challenges à chaque fois pour renouveler le plaisir d'écriture. Par exemple, les 24 heures de bombe, c'est un peu ça, quoi. Je me suis dit 24 heures. Voilà. Dans Gueule cassée, c'était ces quatre personnages. Dans Pile et Face, c'était cette idée que personne ne devait savoir qui était mort, en fait. Parce que souvent, il n'y a pas de raison pour que ce soit plutôt celui-là que celui-là qui soit mort. Donc moi, je dis, je ne tranche pas, et après, chacun se fera, se fera son idée, quoi.
Oui, voilà. Oui.
Mais on essaye à chaque fois, comme j'essaye à chaque fois de renouveler le plaisir d'écrire, j'essaye de... Il y a un double travail. Il y a toujours accepter ce qui sort de nous sans frein. C'est-à-dire la manière dont les choses s'enchaînent, qui sont quand même toujours un peu magiques. Parce que vous avez l'idée d'une scène, je sais pas moi, qui se passe, quand j'étais au Havre par exemple, une scène qui se passe sur un quai, il y a un cargo, vous voyez, des grues, un hangar. Il y a 10 000 façons de la démarrer. Vous pouvez être en haut de la grue avec une vue qui plonge, vous pouvez être... au bord du bateau écrasé par cette falaise d'acier, vous pouvez être en train de refermer la porte de hangar parce que vous travaillez là. Donc, comment les choses s'enchaînent, comment il y a un côté vraiment magique parce que hop, c'est parti, on écrit. Voilà. Donc, moi, j'essaie de sauvegarder cette pulsion-là, enfin, ce courant qui sort. Et, voilà. Et puis après, il y a un travail dessus de reprendre le texte et puis de se débarrasser des facilités d'écriture, de se débarrasser d'images un peu... Voilà, puis d'essayer de donner ce qui a le plus de force dans l'évocation, et pas surécrire non plus, parce que voilà, il y a un moment donné, il faut garder la vérité du langage aussi, donc c'est compliqué. Alors des fois on bute, mais la dernière phrase de la nouvelle de Stop, là, je l'avais trouvé sur mon vélo, en fait.
Ah oui.
Parce que je fais du vélo, et souvent, quand je suis en train de faire un truc, ça me tourne dans la tête. Et ça m'arrive souvent de débloquer une situation ou une phrase que je cherche. Et là, elle me prend un peu pour un tas, parce que j'arrive, je rentre chez moi, je fonce. Alors, vous pouvez faire le truc pour pas le faire avant même de la saluer, ce qui est quand même tout à fait incorrect. Mais, voilà. Donc, quand on écrit, on est la période où on écrit, on est un peu habité par notre histoire quand même, et donc il y a ce mélange entre cette histoire qui tourne dans la tête, les mots qui viennent tout seul, et puis l'exigence du texte qu'on reprend après et qu'on travaille. Et là, j'espère que les textes que je fais aujourd'hui sont plus plus dense, plus... Enfin, j'espère ça, quoi. Au début, le premier roman, il faut dire les choses comme elles sont, j'étais déjà ravi d'arriver au bout, quoi. Déjà, finir un livre, c'était quand même, pour moi, c'était un challenge, quoi. Donc déjà, arrivé au bout, j'étais content. J'ai pas été trop chercher plus loin, quoi. Et bon, déjà, dans le deuxième, j'avais... Comme on est sûr qu'on va y arriver, on a d'autres envies, d'autres exigences qui viennent là, quoi. Mais en même temps, il y avait quand même quelque chose de moi déjà dans ces bouquins-là. Ça on le garde, hein. C'est vrai dans la musique aussi, hein, parce que on a beau travailler son instrument, il y a une manière de l'aborder qui tient à je sais pas quoi, surtout dans le jazz, quand on improvise, je veux dire, on a notre personnalité qui sort, notre façon de faire les choses, notre façon d'entendre, de prendre des appuis. Et même si on travaille, on peut améliorer tout ça, on peut l'enrichir, et ça, mais...
Il y a quelque chose
qui... Oui, il y a quelque chose qui reste, heureusement.
Oui. Sinon, et donc, peut-être, parlons de projet.
Je sais pas si ça répond bien.
Est-ce que, oui, est-ce que ça... parlons de projet, peut-être, les...
Et ben, un livre en cours, un prochain... Je suis en train de travailler, parce que j'avais fait ça il y a quelques années. C'est un livre en hommage à un saxophoniste américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Pepper. Et ce monsieur a écrit une biographie qui s'appelle La vie en ligne droite, Straight Life en anglais. Et il faut savoir que lui, il a passé la moitié de sa vie en prison, etc. Donc la vie en ligne droite, c'était pas trop sa spécialité évidemment, mais c'était une manière d'humour. Donc j'avais pris 12 compositions d'Art Pepper. Et j'ai demandé à 6 auteurs et 6 autrices d'écrire chacun une nouvelle en partant de ce titre, avec la consigne que la nouvelle devait se dérouler l'année où le titre a été enregistré pour la première fois. Ensuite, j'ai confié ces nouvelles à des dessinateurs de BD qui l'ont illustré. Et pour finir, nous, on a réenregistré les 12 titres, mais sur un mode un peu électro. Bon, en fait, quand on a commencé à travailler... Quand on a commencé à jouer les morceaux, on s'est rendu compte que si on les jouait avec la même formule instrumentale qu'Art Pepper, on allait être juste ridicule.
Faire quoi, du sous.
Parce que c'était quand même un peu indépassable, les versions qu'il avait enregistrées. Voilà. Et donc je suis en train de refaire la même chose. Enfin, la même chose. Je suis en train de refaire un exercice du même type, mais sur un autre saxophoniste qui s'appelle Lester Young, qui est un petit peu le père tutélaire d'Art Pepper, en fait. Mais cette fois, comme ça m'a demandé énormément de travail, parce que ce livre-là, enfin, j'en ai assumé presque l'édition, quoi, je me suis dit, puisque je faisais le boulot, autant que j'ai le plaisir d'écrire, donc je vais écrire toutes les nouvelles.
D'accord.
Voilà. Donc les 12 nouvelles, je vais les écrire. On est déjà en train de travailler sur la musique, et ça devrait sortir...
Et ce sera une édition aussi belle
c'est
que
petit,
ça.
C'est ouais. Petit à petit. Ce sera le même éditeur qui fait des très bons bouquins.
Très joli.
Travailler avec lui, ben on travaille peut-être avec lui sur le BD. Voilà.
Merci.
Donc ça, c'est le projet pour l'instant.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.